Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet. I'm an alligator. I'm a mama
papa coming for you. I'm the space invader. David Bowie is David Bowie is. C'est donc le nom de l'exposition consacrée à l'éclectique et touche-à-tout David Bowie. Oh, que c'est bien réducteur de dire éclectique et touche-à-tout quand on parle de David Bowie. Parlons de l'artiste, tout simplement célébré à la Philharmonie de Paris. Exposition, au cas où certains ne seraient pas encore éveillés, qui s'est ouverte lundi et qui se tiendra jusqu'au 31 mai prochain. David Bowie is, autrement dit, David Bowie. Et après avoir été, il est toujours, il est né David Robert Jones, il s'est mué en personnage multiple, mythique, de Ziggy Stardust à Thin White Duck, Maigre Duc Blanc, en passant par Aladdin Sane, ou Halloween Jack. Après avoir bouleversé la décennie glam rock des années 70, il a fait lancer la décennie 80 avec le fameux Let's Dance et marqué de son retour surprise le début de la décennie 2010. Il traverse tous les siècles, David Bowie, tous les pays, tous les continents, il se conjugue toujours au présent et la preuve année, l'exposition fait le tour du monde également, Londres, Sao Paulo, Melbourne, Berlin, Chicago, avant donc de se poser à Paris. Alors comment ce personnage aux multiples facettes a-t-il pu traverser les générations? Se conjuguera-t-il toujours au futur? Est-ce que David Bowie will? Est-ce qu'il sera? Est-ce que David Bowie était-il intimement persuadé de son succès au point d'avoir préparé et parfois annoncé sa postérité? Toutes ces questions, nous essaierons d'y répondre, et je suis sûr que nous y répondrons donc avec nos invités. Mishka Sayas, bonjour Mishka.
Bonjour Marc.
Écrivain, journaliste, critique rock, qui nous accompagne souvent pour des émissions musicales, auteur notamment l'essai du nouveau dictionnaire du rock chez Robert Laffont, et puis Éric Dahan, bonjour Éric Dahan.
Bonjour.
Journaliste fameux parce que quand on aime à la fois David Bowie et Pierre Boulez, on ne peut pas être foncièrement mauvais. Vous préfacez, Éric Dahan, un très joli livre, lu hier, pour préparer cette émission, de Bertrand Dermoncourt, Bowie, tout simplement, chez Actes Sud, la collection Rock. Éric Dahan, on a le sentiment, quand vous préfacez le livre de Bertrand Dermoncourt, qu'il y a une chose qui vous intéresse, et une seule chose, de ne pas, au fond, vous vanter d'être l'ami d'une star et de le fréquenter régulièrement, mais tout simplement de dire, avec des mots très simples et très choisis, que David Bowie, c'est un chic type.
C'est vrai, ce serait stupide de le nier. Et je crois que c'est quelque chose dont tout le monde a conscience, parce qu'on le voit à la télévision et que désormais sur YouTube on peut voir toutes les apparitions scéniques à la télévision et tout le monde peut voir que c'est quelqu'un de vraiment charmant. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de...
Vous l'avez rencontré comment ?
Oh, je l'ai rencontré en tant que fan tout d'abord, bien sûr. Donc j'étais très 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 jeune et je traînais aux abords de l'hôtel Plaza Athénée, de RTL où il faisait des interviews, et c'est comme ça que je suis devenu ami avec lui, puis l'entourage, et puis
son chauffeur. Et vous lui avez serré la main la première fois quand ?
En 1977.
Et comment ça s'est passé ?
Ah, c'est une longue histoire, mais voilà, parce que j'étais un fan et tout simplement au bout d'un moment ils s'aperçoivent, vous savez quand il vous voit trois fois, etc., il sait que, bon, ben voilà, c'est... Et puis c'était drôle, j'étais très jeune, donc c'était assez troublant pour quelqu'un d'avoir des fans aussi jeunes.
Dans le livre que vous préfacez, David Bowie, par Bertrand Dermoncourt, vous écrivez « David Bowie a incarné l'idéal du moi de toute une génération ». Mais de plein de générations, en fait.
Oui,
c'est ça le kaléidoscope.
Oui, mais disons qu'en tout cas, on parle là des années du début des années 70, c'est-à-dire de l'après-Beatles, donc la mort des Beatles, la fin du rêve psychédélique. Donc vraiment, en Angleterre, à ce moment-là, en tout cas dans la planète pop, on se demande un peu ce qui va prendre la suite de ces figures majeures qui étaient Paul McCartney... et John Lennon, puis bon, évidemment Mick Jagger, ça fait déjà presque 10 ans qu'il est en activité, donc il y a comme ça une attente, et c'est vrai que l'arrivée de David Bowie en 72 dans l'Angleterre de l'époque, donc en essayant comme ça de concilier l'orange mécanique, le kabuki, la bisexualité et tout ça, ça a fait l'effet d'un électrochoc et que
Jean Gini.
Voilà, et que tout le monde, pour toute une génération, il est devenu une sorte de maître à suivre, de gourou, de passeur, d'initiateur.
Alors pour vous peut-être, parce que pour introduire un élément perturbateur dans l'histoire, Mishka Sayas. Asayas, il me dit, moi je veux bien venir à ton émission, mais je suis pas un fan de Bowie. Alors...
Non, mais je vais pas faire le salaud de service. Alors... non.
Non, mais un élément de modération. Les
nœuds qui vont déferler. Merci. Non, mais c'est. Enfin, c'est-à-dire que j'ai. Ce que dit Eric est absolument vrai. Bon, je serais menteur, on est à peu près du même âge. Je mentirais en disant que l'arrivée de Bowie n'a pas été un électrochoc. Mais il y avait tout un contexte où il y en avait d'autres. Il y avait Roxy Music, il y avait Mark Bolan, il y avait T-Rex, il y avait Alice Cooper, etc. Et peut-être j'ai été influencé aussi par une certaine méfiance de la critique rock française. Je me rappelle que Philippe Manœuvre avait écrit dans Rock et Folk que c'était une star en carton-pâte. Et ça m'avait frappé. Je me suis dit, ah bon
Ce qui peut être finalement un compliment pour un homme qui aime autant le décor, tant la parure et tant le théâtre, finalement. Mais évidemment que c'était péjoratif.
N'oubliez pas qu'on était à une période où les valeurs, je dirais, de sincérité, d'authenticité, de simplicité étaient très, très, très en avant. Enfin, je veux dire, toute la musique progressive, par exemple, était faite par des musiciens sérieux. Bien sûr, il y avait une partie théâtrale, mais il y avait un côté musical, rétro chez Bowie, qui pouvait choquer une partie du public de la pop musique, comme on disait à l'époque.
Il faut faire un petit peu de biographie pour expliquer tout cela, parce que déjà, ce que vient de dire Mischka Assayas, Eric Dahan, il y a beaucoup de choses biographiques. Oui, Bowie aimait la variétoche, comme il le dit. Oui, il aimait les spectacles populaires à la télévision. Il vient d'un milieu d'un peu nulle part, pas pauvre, pas riche, quartier du Blitz à Londres.
Il vient de Brixton, hein, en banlieue, donc. Mais je crois que je comprends très bien ce que dit Mischka, mais je crois qu'il y avait une nouveauté aussi dans la démarche de David Bowie, qui était que, sous ses côtés comme ça, flamboyants, extraordinaires, il annonçait aussi la mort du rock. Il annonçait aussi le fait que ça devient quelque chose de totalement artificiel, de totalement... et qu'il prend ça, avec une distance qui n'était pas du tout dans l'idée de la culture populaire. Ça veut dire que toutes ces notions naturalistes de « on coïncide avec soi-même, on est rock, on met un blouson en cuir », etc. Tout ça, il a un peu battu en brèche et il a annoncé comme ça l'entrée dans le simulacre.
Parce qu'il a joué avec les codes.
Oui, mais parce qu'il les a abordés avec une grande distance, un grand recul et une tentative justement de repenser tout ça. Donc forcément, ça, c'était déstabilisant. Mais à la fois, je crois qu'on l'a beaucoup présenté comme quelqu'un de froid et distant, et c'est quelqu'un, pour moi en tout cas, peut-être le plus expressionniste de l'histoire du rock. La façon dont il chante sur Ziggy Stardust, si vous écoutez sur YouTube juste les pistes de voix qui sont disponibles aujourd'hui, vous voyez à quel point l'engagement vocal et émotionnel de ses performances. Donc, mais cette ambiguïté existait, c'est vrai.
Oui. Ziggy Stardust, le voici justement. Mischka.
Oui, non, je voulais juste... ce que dit Eric est très juste. Il ne faut pas oublier qu'une des grandes influences vocales indirectes de Bowie, c'est Jacques Brel.
Alors,
par Scott Walker, dit, voilà. Qui était son... Donc c'est vrai qu'il y a, une emphase, un chant très expressionniste, une recherche de lyrisme qui peut paraître contradictoire avec la froideur théâtrale revendiquée de Bowie, mais Eric a tout à fait raison, ce n'est pas contradictoire. Il n'y a pas la froideur, finalement c'est celle de la mise en scène et du dispositif. Mais il y a une recherche d'expressivité.
Mathieu Conquet, David Bowie.
Puisque vous parlez d'expressivité, moi je l'ai, pour resituer, moi j'ai découvert David Bowie, forcément mes grands frères et sœurs l'écoutaient, mais pour moi c'était la génération d'après, puisque c'est par Nirvana notamment que j'ai connu The Man Who Sold the World. Il y a plein d'entrées possibles et de moments possibles pour Bowie, mais vous parliez d'expressivité, d'expressionnisme, ce qui est très important, et ce qu'on peut voir d'ailleurs dans l'exposition, c'est l'importance du mime chez David Bowie. Oui. Ça, c'est vraiment fascinant, parce qu'on voit des photos...
L'importance du clown, la figure du clown, du clown blanc.
Il a passé trois années dans une compagnie théâtrale.
Voilà, notamment Lindsay Kemp.
Lindsay Kemp était un disciple du mime Marceau.
Oui.
Eric Dahan, tout ça, pour des questions quand même biographiques qui sont importantes à savoir, ça vient de quelque chose qu'il s'est inventé lui-même, qu'il s'est approprié lui-même, d'un enfant un peu solitaire, qui n'est pas vraiment justement dans les bandes de rock, contrairement aux clichés de l'époque, et qui puise beaucoup. Pour ce Ziggy Stardust qu'on écoute là, il dit lui-même, il a dit dans des interviews nombreuses, il a dit voilà, au fond, moi je fais l'inverse de ce que tout le monde a fait, j'emprunte des choses à la culture savante et je les mets au niveau de la rue.
Oui, et inversement, ça veut dire il a toujours, la démarche de David Bowie, c'est vraiment de faire des juxtapositions et des synthèses. C'est ça qui est assez nouveau, parce que l'alphabet du rock, la grammaire, la stylistique, tout avait déjà été déposé par les Beatles. Quand vous écoutez les Beatles, déjà l'idée de mutation, on change à chaque disque, on invente, on transforme son... Tout ça existait déjà, mais ce qu'il a apporté en termes d'esthétique, c'est la juxtaposition de choses totalement qui n'ont vraiment rien à voir. Et de les présenter comme ça, C'est dans ce hiatus comme ça qu'il apparaît à chaque fois. Et ça, c'est vraiment ça, une démarche unique.
Est-ce que c'est unique aussi, cette façon de très vite vouloir, au fond, se travestir et se déguiser à ce point?
C'est la même chose. C'est pas, voilà, c'est effectivement, vous dites à ce point, vous n'avez pas tort, parce que Mick Jagger portait du mascara avant lui, Little Richard s'habillait en femme avant lui. Mais... Donc il n'a rien inventé, mais la façon dont il a radicalisé ce geste et il l'a incarné sur scène, effectivement, c'était très nouveau.
Comment est né ce personnage de Ziggy Stardust?
Il naît de l'imagination de Bowie. En fait, il y a la juxtaposition de deux influences. Il y a un rocker américain excentrique totalement oublié qui s'appelait The Legendary Stardust Cowboy. Et puis, il y a l'histoire de Vince Taylor. Vous savez, Vince Taylor, cette espèce de maudit qui était un peu Elvis à la place d'Elvis en France, parce que bon, Elvis ne venait pas, et qui était un mythomane, qui était complètement fou. Et il était, à un moment donné, il paraît qu'il était, je crois, à Hyde Park, je ne sais plus, à Londres, et qui dessinait sur le trottoir. Il y avait tout un système planétaire, et il expliquait où sur Terre les extraterrestres allaient atterrir. Il savait, lui, Vince Taylor, il savait. Et donc l'histoire du rocker devenu fou a beaucoup marqué Bowie, quoi qu'il a, qui était passé devant lui, qui lui avait parlé, je crois.
Mathieu Conquet.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que Ziggy Stardust, c'est un personnage dont il annonce la naissance et la mort quasiment dans le même album. Oui. C'est un album qui est marqué par la mort.
Il le fait naître et il le tue.
Voilà. Oui. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars en 72. Ça commence par Five Years, qui est un morceau qui parle de l'imminence de la mort. Il reste 5 ans avant la destruction du monde. Et puis le dernier morceau, Rock and Roll Suicide, ce sera aussi le morceau par lequel, je crois que c'est un concert en juillet 73 à Londres,
il finit avec ce morceau. Il
met à mort le personnage. Oui. Je me demandais si dans le rock, c'était déjà arrivé d'avoir des figures qui jouaient à ce point avec la mort de leurs propres incarnations.
Éric Dahan ?
Je ne suis pas certain. Je ne vois pas comme ça de personnes qui aient mis à mort leur... Alors évidemment, il y a
l'autodestruction,
ou alors l'idée des volte-face. Bon, la carrière d'Elvis, effectivement, est faite aussi de on part au service militaire, on revient, puis
Dylan,
après la période Hawaii, Dylan
qui a trahi quand il a fait un album country à Nashville avec Nashville Skyline.
Voilà, l'accident de moto, puis le retour d'Elvis en 70, tout en cuir, NBC Special. Donc oui, il y a cette idée que de toute façon, il faut mourir et renaître dans les carrières de la pop musique. Il y a cette idée qu'il faut mourir et renaître d'une certaine façon.
Oui, mais se réinventer plus simplement.
Maintenant, mais effectivement, le mettre en scène, de façon aussi dramatique, christique, c'est effectivement
c'est du théâtre,
la première fois.
C'est du théâtre. C'est ça la différence.
Dana Gillespie, qui parle de David Bowie, dit David Bowie, David, c'est simple, il a toujours été plus heureux en jouant un rôle qu'en étant lui-même. Est-ce que vous l'avez déjà vu lui-même ou vous l'avez toujours vu jouer un rôle, vous, Éric Dahan, quand vous le voyez?
Oui, je l'ai vu quelques fois être lui-même. Et c'est assez troublant d'ailleurs. Il peut être
en petit tweed, petit mocassin.
C'est pas forcément comment il est habillé, parce qu'il peut être habillé et faire un numéro aussi. Hein, il est... Mais effectivement, à force de rencontres, j'ai réussi à le voir 3-4 fois, totalement lui-même. Quoi.
Et alors?
Et c'est, c'est troublant, mais parce que c'est quelqu'un, parce que il est comme nous. Hein, je veux dire, la différence, c'est qu'il a juste fait une carrière exceptionnelle et qu'il a incarné des choses tellement incroyables au cinéma, dans la musique, etc., qu'on a toujours un peu de mal quand on est face à lui de faire totalement abstraction de ça.
Il se définit comment quand on lui demande, lui, comme un musicien, comme un chanteur, comme un rocker ou comme un artiste tout court?
Il ne le fait plus trop parce que ça doit l'agacer. Mais en tout cas, il y a eu des époques où il le faisait. À l'époque, dans les années 70, en 75, 76, quand on lui demandait ce qu'il disait, il disait « I'm a generalist ». Je suis un généraliste.
C'est comme le matin.
Voilà. C'est-à-dire qu'il disait qu'il était généraliste et ça veut dire qu'il ne voulait pas, il était à la fois artiste, comédien, businessman. Il était un peu tout ça.
Est-ce qu'il est un peu l'ancêtre? Alors, je sais bien qu'il y a toujours des idéologies qu'on peut contredire, mais est-ce que du coup, ça en fait quand même un peu l'ancêtre de Madonna, de Lady Gaga, de Michael Jackson, sur cette nouvelle manière d'être un showman?
Sur la question du théâtre, vous avez raison, mais je crois que Mishka peut aussi dire à quel point il a influencé toute la New Wave, dont Mishka est un grand fan.
Oui,
Mishka n'est pas fan de David Bowie, mais les enfants de David Bowie, il les adore.
Bien sûr, mais j'adore.
Je veux dire, Joy Division, qui est un groupe que Mishka Assayas adore.
Qui a tiré son nom, effectivement, son premier nom, qui était Warsaw, de Warsawa, qui était une chanson de Station to Station. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il a anticipé, c'est-à-dire qu'il a eu le génie de d'anticiper ce qui allait arriver dans le rock. C'est-à-dire qu'il y a une forme de conscience, de pourrissement, de décadence, une conscience que le rock était en train de se détruire et qu'il fallait le ressourcer. Et c'était lui qui est allé chercher Iggy Pop, c'est lui qui est allé chercher Lou Reed,
et
qui
a fait des stars,
deux des stars à Londres. Et ça,
John Cale, qu'il aimait, qu'il préférait, c'était juste celui qu'il préférait.
Ah, il a peut-être dit, oh oui, enfin,
il a dit.
Oui, il a peut-être dit, mais enfin, c'était pour emmerder Lou Reed, sans doute, avec qui ils ont eu des rapports assez difficiles. Parce qu'il était très jaloux, évidemment. Lou Reed était très jaloux de Bowie. Ça...
Mathieu ?
Moi, j'aimerais revenir sur l'histoire du mime et d'un point commun avec Michael Jackson. C'est, Marcel Marceau, enfin, le mime Marceau, c'était une référence pour Michael Jackson qui lui a piqué plein de choses, hein, le fameux moonwalk, beaucoup de gestes. Et c'est quand même pas un hasard, c'est étonnant, je trouve, et il y a peut-être une analyse à faire là-dessus, que deux des plus grandes pop stars du XXe siècle viennent du mime, c'est-à-dire d'un art muet et d'un art ambigu, en tout cas d'une certaine ambiguïté sur l'enfance notamment.
Éric Dahan, sur cette question.
Oui, c'est possible, mais je crois qu'évidemment David Bowie a utilisé le mime dans ses performances et Michael Jackson aussi, mais bon, il faut savoir que Michael Jackson est venu voir les shows de 74 à Hollywood, à l'Amphithéâtre Universal en septembre 74. Donc oui, ils étaient amis, ils se sont rencontrés, David Bowie a dîné dans la famille de Michael Jackson à cette époque-là, donc je crois que oui, ça a dû sûrement l'influencer sur la façon de construire ses shows et ses performances par la suite. Maintenant, est-ce que on peut réduire le succès de David Bowie juste au mime? Évidemment, mais enfin, vous n'avez pas tort, oui, bien sûr. En tout cas, le mime est une école parfaite pour le maintien sur scène, et c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de stars maîtriser la scène comme David Bowie, et qu'en tout cas, pour quelqu'un qui était très timide, ça l'a aidé à dépasser sa timidité et à devenir un personnage extraordinaire de scène.
Après 1972, les cheveux longs teints en rouge et les talons hauts, voici 73, Ziggy Stardust est mort, arrive Aladdin Sane, le visage barré d'un éclair.
Strung out on lasers and slashed back blazers and ate all your razors while pulling the waiters.
C'est quoi tous ces jeux de mots, Éric Dahan? Alors, Jean Genie, c'est Jean Genet. Et Aladdin Sane, dans Aladdin Sane, il y a Insane.
C'est clair.
Dirait Benjamin U. Oui, bah oui, c'est clair. Enfin, c'est pas pour tout le monde ce matin à 5h, mais là, ça y est, je crois. On y est. C'est quoi tout ce...
Mais de toute façon, ça va avec l'idée du simulacre, je veux dire l'idée du jeu avec les référents, avec les symboles, avec la culture en général.
Mais c'est sérieux, c'est un Jean Genet, c'est une vraie référence à Jean Genet ou c'est juste piqué comme
ça ? Il connaissait, enfin en tout cas, c'est pas vraiment une référence, Jean Genet n'est pas une référence à Jean Genet spécifiquement, mais en tout cas, il connaissait Jean Genet très bien, puisqu'il avait, Lindsay Kemp a fait un spectacle qui s'appelait Flowers, d'après Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet, en 70, qui était présenté au Théâtre de la Ville en 78-79, et Jean Genet a même rencontré David Bowie à Londres, dans une séquence mémorable racontée dans la biographie d'Edmund White, qui est assez amusante, puisque Jean Genet était avec des amis et qui cherchait David Bowie, et qu'à un moment, en disant « mais il est toujours pas là », il s'approche d'une dame avec un chapeau et des cheveux longs et disent « Monsieur Bowie ?» Il dit « oui, c'est moi voilà. ».
L'âme d'entre nous est entrée dans ce studio. Brice Couturier.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Oui, je vous propose... On va revenir en arrière là. Vous vous souvenez quand vous étiez avec vos collants rouges dans Hell's Kitchen il y a 30 ans ?
Vous n'étiez pas là pour le voir et j'essaie
de vous tirer la vérité.
Vous inventez là. Ouais. Non, moi je portais un Spencer rouge épaulé dans les années 80, mais jamais de collant.
Bon, d'accord.
Alors la question que j'aimerais vous poser et à vous inviter après le journal est la suivante. Je voudrais interroger le rapport de David Bowie aux 60s fondatrices. Est-ce que son œuvre incarne une déception par rapport à un reflux de la vague ou une prise de distance qui passerait par la parodie et le simulacre ?
La réponse, ce sera tout à l'heure à 8h15.
Mmh.
Mishka Sayas, Eric Dahan sont nos invités pour cette émission spéciale Bowie, enfin, et qu'il faut dédier à Tanguy Blum qui l'avait préparé cette émission il y a bien longtemps et qui nous avait été annulée parce qu'un pape en avait remplacé un autre. C'était l'élection du pape à 19h15 qui nous avait fait annuler cette émission Bowie. Donc enfin, la voici, chers amis auditeurs, France Culture, il est 8h. Journal de ce vendredi 6 mars 2015. Amélie Perrier, bonjour Amélie.